Donc ce matin, je ne vous propose pas une étude biblique proprement dite. Je vous propose, c'est plutôt vraiment une prédication. Et nous allons simplement explorer le contenu de ce texte, ce proverbe, de ce prophète. Nous allons l'explorer et peut-être se ramener à nous après. Et nous, aujourd'hui, ces histoires se sont passées dans cette époque-là. Quelle est la portée de ces histoires-là aujourd'hui pour nous? Qu'est-ce que cela nous invite à penser ou à faire? Ce matin, donc, je vous propose la lecture du prophète Sophonie. Alors, il y a trois chapitres dans la prophétie de Sophonie. Et avant la prière, je veux juste que nous puissions lire la partie que nous allons aujourd'hui examiner. Donc, je vais diviser tout le livre en trois parties. Ce sont les parties que moi, je divise par rapport à mon étude personnelle. Ce ne sont pas nécessairement les parties qui sont divisées telles que c'est divisé par des commentateurs ou des théologiens. Chacun a sa façon d'entrer dans un texte et de pouvoir trouver les éléments pour pouvoir être béni. Moi, je propose simplement ce matin, nous allons lire la première partie qui va partir de tout le chapitre 1 et puis les trois premiers versets du chapitre 2. Alors, suivez la lecture. Si vous avez vos Bibles, évidemment, ce serait génial, mais sinon nous avons cette espèce de chose-là. Ça ne vous exclut pas d'avoir vos Bibles chez vous à la maison. Hein. De toute façon, si vous n'avez pas vos Bibles chez vous à la maison, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire votre lecture vacancière. Hein. Sophonie, chapitre 1 et le chapitre 2 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Couchi, fils de Guedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres et les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, et ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant l'Éternel. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai tous ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons, des lamentations dans l'autre quartier de la ville et un grand désastre dans les collines. Gémissez, habitants de Maktéchi. Car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent seront exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes et je châtierai les hommes qui reposent sur les lits et qui disent en leur cœur, l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus, ils auront planté des vignes dont ils ne boiront pas le vin. Le grand jour de l'Éternel est proche, il arrive en hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre. Contre la ville, contre les villes fortes et les tours élevées. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Je répandrai leur sang comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Par le feu de sa jalousie, tout le pays sera consumé car il détruira soudain tous les habitants du pays. chapitre 2, merci. Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous, cherchez l'Éternel, vous tous les humbles du pays qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Prions. Seigneur, nous acceptons ta parole et nous voulons croire que toute ta parole est la vérité, qu'elle nous a été donnée pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous former, afin d'être ces hommes, ces femmes qui sont à ton service, afin d'être ces enfants précieux qui te connaissent, qui connaissent ton cœur, qui connaissent ton caractère, qui connaissent ta vision, qui ont ce fardeau pour toi, Seigneur, le fardeau que tu as, qui partagent le même fardeau que toi pour le monde perdu. Seigneur, que ta parole qui est la vérité nous sanctifie ce matin et nous parle au fond de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Quand on écoute ça, on se dit, waouh, heureusement c'est pas sur nous, hein. Nous ne sommes pas sous cette menace-là qui nous pèse de cette façon-là. Imaginez pour ces gens-là à l'époque, d'entendre leurs prophètes dire des choses comme ça. C'est-à-dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va devenir? Nous sommes au 7e siècle, 7e siècle avant Jésus-Christ, dans le territoire du royaume de Juda. À l'époque, les deux royaumes se sont séparés. Le royaume d'Israël, qui était un royaume complet sous le roi David, a été scindé en deux, conflit entre les deux côtés, et donc le royaume du nord avec la capitale Samarie. Ici, c'est déjà trop tard. Le royaume du nord a déjà été détruit. Les Assyriens ont déjà pris le contrôle de ce territoire. Il reste le royaume de Juda, un petit royaume dont Jérusalem est la capitale. Nous sommes donc dans ce royaume, 7e siècle avant Jésus-Christ. C'est le roi Josias qui est au pouvoir. Josias, c'est un roi particulier. Il arrive au pouvoir par la suite de la mort brutale de son père, Amon. Et lui, il arrive là au pouvoir. Il est un gamin, c'est un enfant. Il n'a que 8 ans quand il arrive au pouvoir. Mais tout de suite, Josias a la particularité, contrairement à son père et contrairement à son grand-père, Josias a cette particularité que lui, il cherche Dieu. Il veut en savoir plus sur ce Dieu dans lequel il a été élevé. Parce que vous savez, à l'époque, Jérusalem, tout Juda est idolâtre. Ils n'ont pas que le judaïsme comme religion. Ils n'ont pas que la crainte de Yahweh. Ils ont d'autres divinités. Ils ont d'autres religions qu'ils pratiquent. Aux yeux de Dieu, ils sont donc idolâtres et adultères. Vous savez, c'est quoi l'idolâtrie? C'est le fait de mettre à la place de Dieu quelque chose d'autre. C'est prendre quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre pour Dieu et le mettre à la place de Dieu. Peut-être que nous n'avons plus des divinités, des petites statues que nous adorons, n'est-ce pas? Bon, quoique ça existe encore dans d'autres coins du monde, nous n'avons pas des amulettes, des petites statuettes que nous avons dans un petit coin et que nous, hein. On le fait pas peut-être, mais nous sommes quand même encore menacés par l'idolâtrie dans toute la mesure où si notre argent devient plus important que Dieu, si nos biens matériels sont plus importants que Dieu, si notre travail est plus important que Dieu, si nos relations sociales, si nos époux, nos conjoints, nos enfants, notre entourage, les activités qu'on fait, notre sport, si toutes ces choses sont plus importantes que Dieu, nous sommes des idolâtres, exactement comme eux à l'époque. Ils sont idolâtres, mais ils sont aussi adultères. Adultère, vous savez ce que c'est? C'est un homme ou une femme qui va aller avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son, avec qui il est marié. C'est donc un homme marié ou une femme mariée qui va avec quelqu'un d'autre, peu importe le statut de cette personne-là, mais qui n'est pas son mari ou sa femme. Nous sommes adultères. Ils sont adultères dans ce sens que ils sont en train d'adorer Dieu, mais en même temps, ils adorent d'autres. Voyez, deux choses. L'idolâtrie, ils aiment d'autres dieux plus que Dieu. L'adultère, ils aiment encore Dieu, et pourtant, ils fricotent avec d'autres dieux. Osias, à 8 ans déjà, s'intéresse énormément à Dieu. Et il se pose beaucoup de questions. Et tout doucement, comme ça se passe toujours, quand quelqu'un commence à chercher Dieu, il commence à découvrir des choses. Et à l'âge de 12 ans, il amorce une réforme spirituelle, une réforme religieuse en Juda, sur son territoire, sur son pays. Il commence tout doucement à étudier, mais pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, et il commence tout doucement à enlever tous les symboles qui parlent, qui expriment la foi en d'autres divinités. Et à l'âge de 18 ans, il va être plus courageux encore, et là, il va opérer des réformes qui vont être encore plus profondes. Et dans sa recherche de Dieu, Dieu va même permettre que un de ses sacrificateurs, un de ses serviteurs, va découvrir le livre de la loi, c'est-à-dire la Torah. Et là, ça va être le boom. Parce que lorsque Josias aura ça et qu'il l'aura lu, il demandera qu'on le lise à tout le peuple. Et là, il y aura une grosse émotion. Parce que le peuple se rendra compte qu'il s'est énormément éloigné de Dieu. Il y aura vraiment la repentance et puis il y aura surtout le réveil spirituel, le retour à Dieu. Parenthèse pour Josias. À l'époque, donc, au moment où je parle, Josias est encore un petit enfant. Il est encore en train de chercher Dieu, en train de comprendre encore que le peuple n'est pas vraiment dans le bon chemin. Et c'est à cette époque-là que Sophonie va prophétiser, va faire son travail. Ah oui, juste un autre détail important quand même à l'époque, c'est que Juda, le royaume de Juda, est un royaume qui vit sous domination. C'est la domination assyrienne. Les Assyriens dominent Juda. Mais ils laissent une grande marge d'indépendance, d'autonomie à Juda, ce qui fait que Juda peut fonctionner sans trop avoir les autorités assyriennes directement sur le terrain. Mais il est quand même encore sous la domination des Assyriens qui contrôlent déjà l'autre territoire qui est le royaume du Nord. Qui est Sophonie? Alors, pourquoi est-ce que Sophonie va-t-il être emmené de la part de Dieu à donner cette prophétie? Alors, Sophonie, ça veut dire l'Éternel a caché, ou l'Éternel cache, ou l'Éternel a protégé, ou l'Éternel protège. C'est ça le sens du mot Sophonie. Sophonie, je ne sais pas si vous avez remarqué, au premier verset du premier chapitre, Christophe, eh bien, dans le premier verset, il est écrit quoi? Sophonie, fils de Cushi, première génération, fils de Guédalia, deuxième génération, fils d'Amaria, troisième génération, fils d'Ézéchias, quatrième génération. C'est le seul prophète où il est question d'une généalogie comme ça. De seul à seul. Il n'y a aucun autre prophète où on a tout cet énoncé des ascendants. Vous savez pourquoi? Parce qu'il voulait souligner qu'il est le descendant du roi Ézéchias. Il est le petit-fils, enfin l'arrière-petit-fils du roi Ézéchias. Et donc, ça dit tout ce que ça dit sur le personnage. On a là un cas exceptionnel de prophète. C'est un prophète de la lignée royale. C'est un prophète qui fait partie des princes. En général, ce n'est pas le cas, à part Jésus, qui cumule tous les titres à ce niveau-là. En général, les prophètes, c'est des kidam qui n'ont rien à voir avec la royauté. Mais lui, il est de la descendance, il est de la lignée royale. C'est aussi un avantage que Sophonie a, parce qu'alors, à cause de ça, Sophonie a des entrées faciles dans le royaume de Juda. Il connaît plein de gens. Il peut donc parler des gens. Il peut donc parler de personnes dans le pays parce qu'il les connaît. Parce qu'il est, il vit avec eux. Il a ses entrées dans la cour royale. Il connaît Josias. Il connaît tous ces gens, les rois, les princes, les riches, les nobles de la société. Il les connaît. Il vit avec eux. Il sait ce qu'ils font en bien et en mal. C'est un cas rare. Sophonie, il est contemporain de Jérémie à l'époque. Et sûrement parce qu'il y a des textes qui montrent qu'ils se connaissaient. Alors, Sophonie, donc, c'est un homme qui connaît bien la société de Juda de l'époque, et il a écrit cette prophétie probablement avant que Josias n'entre dans la phase décisive de sa réforme. Et c'est comme si cette prophétie a été donnée pour pouvoir appuyer, soutenir le travail, soutenir les intentions de Josias par rapport aux réformes. Alors, découvrons maintenant le contenu de cette première partie à laquelle je vous ai invité à lire tantôt. Alors, Dieu annonce l'imminence d'un jugement. Vous avez vu le ton de la lettre, de la prophétie, est un ton où vraiment c'est tac, 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 tac. Il est vraiment en train d'énoncer que ça va arriver, ça va chauffer, ça va barder. Dieu annonce l'imminence d'un jugement. Le jugement, d'abord, est énoncé à l'égard de toute la terre. Je détruirai tout sur la surface de la terre. Verset 2. Je détruirai les hommes et les bêtes. Tout, tout, tout. Je détruirai tout. Et puis, à partir du verset 4, il dit, j'étendrai ma main sur Juda. Et là, ça va chauffer aussi. Dieu est en colère. Dieu est en colère et son jugement, sa menace de jugement apparaît comme véritablement celle qu'il avait faite au temps du déluge. Où, justement, à cause de la corruption de l'époque, il avait décidé d'éliminer toute vie sur la terre. Dieu est en colère. Et il fait savoir qu'il va exterminer les hommes. Qu'est-ce que Dieu réproche? Ça s'est éteint chez moi, Christophe. Chez toi aussi, ça s'est éteint? Ah, ces machines modernes, franchement. Bon, alors vous avez vos versets, n'est-ce pas? Ah, j'allais vous donner du travail avec vos Bibles. Hein. Enfin, pour ceux qui les ont. Hein. Pourquoi est-ce que Dieu veut exterminer tous les hommes? Regardez le verset 3. Il veut les exterminer. Pour deux raisons, les objets de scandale et les méchants. Il veut les exterminer pour deux choses. D'abord, parce que les hommes sont méchants. Pardon. D'abord, parce que les hommes sont des idolâtres. Ils ont les objets de scandale. Les objets de scandale, c'est littéralement le fait qu'ils ont des biens et ces biens deviennent des obstacles entre eux et Dieu. Parce qu'ils aiment plus ces biens-là que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Donc Dieu reproche au monde entier, reproche à toute la surface de la terre de cette époque-là, il leur reproche leur idolâtrie, mais aussi leur méchanceté. Vous voyez? Ça ne change pas. C'est toujours la même chose encore aujourd'hui. L'idolâtrie et la méchanceté humaine. C'est les choses qui reste encore aujourd'hui de mise. Ça existe encore aujourd'hui. C'est ce que Dieu les reproche à cela. On reviendra sur ça lorsqu'on va essayer de tirer un peu les conclusions de tout ce qu'on dit. Mais l'objet principal du jugement de Dieu, c'est Juda. À la fois comme nation et aussi comme peuple. Dieu reproche à Juda et il va énoncer les différentes catégories. D'abord, il va commencer à faire ses reproches sur le domaine religieux, sur les autorités religieuses, d'abord. Vous remarquez, à partir du verset 4, Tu peux remonter juste. Voilà. Donc, il commence avec le monde religieux d'abord, et là, il promet d'exterminer toute forme de religion étrangère. Et il y en a quelques-uns, n'est-ce pas? Alors, parmi ces religions étrangères que Dieu promet de d'effacer, il y a d'abord la religion de Baal, au verset 4. Franchement, ce serait intéressant d'étudier un peu plus en détail toutes ces religions-là, mais je pense que ça prendrait beaucoup de temps, surtout que j'ai la réputation d'être bavard, et en plus, je vais vous retenir pendant trop longtemps. Mais voilà, en résumé, en fait, donc il y a la religion de Baal, et il va éliminer Baal et les ministres, c'est-à-dire les serviteurs de Baal, et aussi les prêtres de Baal. Et la religion de Baal, c'est une religion qui est caractérisée donc par des sacrifices, vous savez ça aussi, des sacrifices, mais aussi particulièrement par la recherche de tout ce qui est étude astrale, l'astrologie, connaître un peu à travers les astres, donner des réponses aux choses. Alors, Baal est souvent associé avec une autre divinité de l'époque qui s'appelle Astarté. Donc, c'est Baal et Astarté ensemble. Deuxième religion, c'est la religion de, vous voyez, verset 5, ceux qui se prosternent sur le toit devant l'armée des cieux. Et cela, c'est la religion de Moloch. Je ne sais pas si vous connaissez Moloch. C'est encore une autre religion de l'époque dont la caractéristique, c'était de pouvoir sacrifier des jeunes filles vivantes et de les mettre dans le feu. Et donc, cette religion-là, évidemment, fonctionne avec, justement, l'existence, enfin, il croit en l'existence des anges, des esprits dans les cieux qui contrôlent les choses et dont il faut satisfaire les demandes. Première catégorie, Baal et Astarté. Deuxième catégorie, Moloch. Troisième catégorie, il va poursuivre aussi les sacrificateurs infidèles. C'est-à-dire ceux qui servent Dieu et qui sont infidèles. Regardez comment il parle de verset 6. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Ceux-là aussi sont pris là-dedans. Mais au fond, quand on regarde dans l'ensemble du contexte, on voit quand même que ce que Dieu fait le reproche, gardez toujours l'idée idolâtre, adultère. L'idée qui est derrière, c'est pas seulement que Dieu reproche l'existence de ces religions-là auxquelles le peuple s'adonne avec parfois la bénédiction des rois, mais c'est l'adultère que Dieu reproche. Le fait qu'il y ait des sacrificateurs qui, en même temps, servent Dieu, et en même temps, servent les divinités, que ce soit Baal, que ce soit Moloch, etc. C'est là la source de la colère de Dieu. C'est là la raison pour laquelle Dieu est en colère. Et voyez, il ne donne même pas le temps à tous ces gens-là de pouvoir se défendre. Silence! Vous n'avez rien à dire. Vous êtes condamnables. Dieu a en horreur ces choses et on ne discute pas avec ça. Matière de réflexion pour nous. Chaque fois que nous sommes idolâtres, chaque fois que nous sommes adultères, ça ne sert à rien d'aller discuter devant Dieu. Ça sert à dire à Dieu, oui, tu peux me comprendre, Seigneur, je suis faible. Je suis un humain, hein. Ça peut m'arriver, hein, Seigneur. Non, on est conscient de son péché, Seigneur. Je me répands, je demande pardon. Je ne vais pas commencer à chipoter, à trouver des excuses pour ce que je fais. Il n'y a pas d'excuses. Silence! Après avoir désigné la catégorie religieuse, les religieux en général, il va maintenant s'attaquer aux laïcs. Et regardez, à partir du verset 8, il va dire, au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les rois et les fils de rois. Vous avez remarqué une chose, il ne parle pas du roi, hein? Il parle du prince et des fils des rois. Pourquoi? Parce que le roi est quelqu'un qui commence à marcher dans la vraie voie. Et c'est pour ça qu'il ne le désigne pas. Vous voyez? les princes, ceux qui entourent la cour, ceux qui font partie de la cour royale, les princes et les fils du roi, mais aussi ceux qui portent des vêtements étrangers, c'est-à-dire tous ces riches, ces gens importants, ces ministres, ces nobles, mais qui ont pris une autre religion, qui ont embrassé une autre religion que la religion de Dieu. C'est pour ça qu'il parle de vêtements étrangers. Il dit, en ce jour-là, il va les châtier. Il va châtier une autre catégorie de personnes. Verset 9, ceux qui travaillent pour les princes, les ministres, les nobles, etc., et qui volent, qui pratiquent, qui leur donnent des cadeaux, mais qui sont les fruits des vols. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Ça s'appelle la corruption. Vous savez les pots de vin? Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein? Hein? Vous savez, aujourd'hui, si moi j'ai envie de rester au pouvoir, mais que j'ai des plus puissants que moi au pouvoir, qu'est-ce que je fais? Je leur fais des cadeaux. Oui ou non? Ah, il faudrait, hein? J'ai intérêt, non? Vous pensez pas? Si je veux rester au pouvoir, je dois quand même faire des cadeaux aux plus puissants que moi. Mais seulement, comme j'ai pas beaucoup d'argent et que je peux profiter du contexte corrompu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voler. Je vais aller détourner. N'est-ce pas? Parce que je sais que quand je vais donner ça au roi, quand je donne ça au ministre, mais il va me couvrir si jamais on doit m'attaquer. Il va dire, c'est un cadeau qu'il m'a donné, laissez-le tranquille. Hein. On raconte des histoires du style, enfin, dans un pays que je ne cite pas, puisque vous allez dire, ah oui, c'est normal. On raconte que, un jour, le chef de l'État a demandé 10 millions de dollars. Dis, donne-moi 10 millions. Et l'individu concerné, qui était PDG d'une grosse boîte qui produisait beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti 15 millions. Donc, il a donné au président 10 millions. Il a pris 5 millions, il a mis dans sa poche. Contrôle budgétaire, conseil d'État, comment on appelle ça? La cour de compte qui contrôle les biens de l'État, etc. Et ça, boum, trou. 15 millions. 15 millions. Monsieur, venez ici, expliquez, justifiez. Moi, si vous voulez que je vous dise où sont partis l'argent, c'est vraiment une affaire entre monsieur le président de la République et moi. Vous croyez qu'on a encore demandé à ce monsieur-là quelque chose? Plus rien. L'affaire a été étouffée, c'était terminé. Comprenez? Et il y a des gens, au nom du chef, qui vont tuer, qui vont faire du mal pour faire plaisir au chef. Qui vont voler et qui vont donner quand même une partie des biens au chef. Comme ça, le chef, il dira plus rien. Ce sont ceux-là. C'est les gens qui vont sauter par le seuil et qui vont aller à pratiquer la violence. Qui vont remplir de violence et de fraude la maison de leur maître, la maison de ceux qui leur sont supérieurs. Dieu est en colère. Et il ne vise pas que cela. Il vise aussi les trafiquants, la classe moyenne, mais pas la classe moyenne des gens gentils qui ne font rien de mal, mais la classe moyenne des trafiquants, des voleurs, des escrocs. La classe moyenne qui trafique la drogue, qui vend illégalement les cigarettes, qui fait passer par la douane beaucoup de choses à l'œil, hein, etc. Il condamne cela. Et voyez la connaissance, la bonne connaissance de Sophonie, de la réalité du cadastre social de sa société. Voyez, regardez au verset 10. Il y aura des cris à la porte des poissons. Et puis, dit-il, des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Voyez, verset 11, il dit, gémissez habitants des Matéchi. Voyez, pourquoi? Parce que ce sont des quartiers où se trouvent des trafiquants. Un peu comme si on disait aujourd'hui, certains quartiers bien chauds. Mon fils m'a toujours parlé qu'à Mons, il y a une famille là-bas qui est très célèbre. Les Becker, même la police n'ose pas aller par là. Vous voyez, ils sont tellement chauds que quand la police vient, avant même que la police ne puisse leur dire police, ils sortent déjà leurs armes, boum, ils tirent sur la police. Voilà. c'est des gens fantastiques. Voyez, et il y a des quartiers comme ça dans tous les pays du monde, des coins où ça peut être très très dangereux. Eh bien, Sophronie connaît tout ça. Il sait où se trouve telle catégorie de population, tel type de commerçant, tel type de trafiquant. Il connaît tous les différents endroits. Gémissez, habitants de Maktéchi, car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent seront exterminés. Et la colère de Dieu est tellement profonde que Dieu va dire, je vais aller même chercher les gens, là où ils se cachent. On va fouiller partout, on va les chercher pour les trouver. Verset 12, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. On raconte l'histoire que lorsque les Romains sont arrivés pour prendre le contrôle de Jérusalem, ça c'est des années plus tard, hein, c'est pas à cette époque-là, c'est des siècles après. Eh bien, ils n'ont pas trouvé les nobles et les princes de la ville. Ils les ont pas trouvés. Ils s'étaient cachés dans les fouilles, dans des grottes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont obligé les gens à aller les chercher pour les attraper, moyennant de l'argent. Et on les a tous attrapés un par un. Vous voyez? C'est ce qu'il dit ici. J'obligerai, j'emmènerai ces gens à vous attraper un par un. Donc Dieu est en train de prévenir que personne ne sera épargné. Personne. Alors, vous avez aussi remarqué une chose. Il dit chaque fois le mot jugement revient. Il dit chaque fois le jour de l'Éternel. Vous avez remarqué ça? En ce jour-là, le jour de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel, le jour redoutable, etc., le jour du sacrifice, etc. Il dit tout le temps cela, parce que le jugement se présente sous le qualificatif de jour de l'Éternel. De quoi s'agit-il? Visiblement, Dieu annonce que le jugement consistera dans le fait de détruire Juda par la guerre, militairement. Dieu annonce qu'il y aura une invasion d'une armée étrangère qui va venir conquérir Juda et tout casser, tout détruire. Et cette armée fera le programme que Dieu dit, c'est-à-dire recherchera les religieux, recherchera les laïcs et passera tous au fil. Cette invasion sera tellement grave qu'on va chercher tout le monde, on va les dénicher là où ils sont, on va piller, on va prendre. Les gens ne profiteront pas du fruit de leur travail. Et donc, voyez, verset 16, pour avancer plus vite. Le verset 16, il parle même de la guerre. Voyez, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. C'est la guerre. C'est la guerre que Dieu promet. Vous savez, est-ce que c'est surprenant que Dieu envoie comme jugement la guerre? Est-ce surprenant? Ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire biblique, est-ce que c'est surprenant? Non! Dieu promet déjà lorsque le peuple va entrer dans la terre promise. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Si vous n'êtes pas fidèles, si vous déviez, chaque fois que vous dévierez, je vous enverrai un autre peuple, une autre armée qui viendra vous asservir, vous maltraiter, pour que vous puissiez comprendre que vous avez tout intérêt à vous attacher à moi, que c'est moi votre roi, c'est moi votre seigneur. Ce n'est pas étonnant que Dieu envoie encore. Mais remarquez une chose aussi. Il parle de l'imminence d'un jugement. La question c'est, est-ce que ce jugement va-t-il avoir lieu? Dieu sait qu'il menace, va-t-il être mis à exécution? Et si oui, de quoi cela dépend? En fait, Dieu ne veut pas exécuter le jugement. Il veut que Juda se rende compte de son péché et s'en répande. Ce que Dieu veut, c'est que Juda s'examine. Chapitre 2. Rentrez en vous-même et examinez-vous, nations sans pudeur. Ce que Dieu veut, c'est que Judas s'examine, que Judas se repente. Chercher l'Éternel, ce que Dieu veut, c'est que Judas cherche Dieu. Que le peuple se soumette à nouveau à Dieu dans l'humilité et qu'il recherche la justice de Dieu. Alors, voilà. En quelques mots, je sais que peut-être que vous n'allez pas être très satisfait parce que c'est quand même une prédication. Je ne dois pas donner beaucoup de détails, sinon vous allez me dire c'est une étude biblique. Quoique l'étude biblique, c'est intéressant, hein. Mais voilà. Peut-être juste terminer avec la question suivante. Qu'est-ce que tout ça, ça a comme écho aujourd'hui pour nous? Franchement, c'est des choses qui sont passées au 7e siècle avant Jésus. Qu'est-ce qu'on a à cirer aujourd'hui? Oui, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Et on sait que toute la parole de Dieu, elle est là comme une instruction pour nous. Elle est là pour comme un enseignement. Tous les événements qui se sont passés auparavant sont là pour nous aider aujourd'hui à bien marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ce texte peut nous enseigner ce matin? Moi, j'ai relevé 3 petites choses. Première chose, c'est l'universalité du jugement. Le jugement n'affecte pas seulement ceux qui sont directement concernés, ici en l'occurrence le peuple d'Israël. Le jugement affecte toute l'humanité. Nous sommes tous sous le coup du jugement. Encore aujourd'hui, chaque fois que l'homme vit dans le péché, chaque fois que l'homme se maintient dans le péché, il est sous le coup du jugement de Dieu. Et que veut dire ce jugement? Quels sont les éléments qui sont terribles dans ce jugement-là? Il y a d'abord la colère de Dieu. Dieu qui menace, qui dit qu'il va faire, qu'il va exterminer, qu'il va détruire, qu'il va faire mal, qu'il va mettre les gens dans la détresse. Première chose, l'universalité du jugement. Nous sommes tous sous le coup du jugement chaque fois qu'il y a le péché en jeu. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, la raison majeure pour laquelle Judas est condamné, c'est à cause du péché. Et on a décrit ce péché-là. Adultère, idolâtrie et adultère. Ça nous concerne aussi aujourd'hui, parce que Dieu n'a pas changé. Le même jugement peut se porter sur nous dans la mesure où nous sommes pécheurs. Heureusement pour nous, deuxième chose que ce texte nous apprend, le cœur de Dieu n'est pas un cœur qui est porté à faire du mal. Le cœur de Dieu est un cœur d'amour. C'est un cœur qui veut accorder la grâce. Voyez, le peuple d'Israël va passer par des chemins de douleurs parce qu'ils vont vouloir résister à Dieu. Mais nous, aujourd'hui, ne serions-nous pas un peu plus malins de dire, au lieu de mettre Dieu à l'épreuve et de voir s'il va nous faire quelque chose, est-ce que ce serait pas plus simple de dire, on fait la paix avec Dieu. On vit dans sa grâce. On profite de sa grâce. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère. J'aime le mot épargné. Parce que le mot épargné, c'est le mot qui fait passa, pessa. Et le mot pessa, c'est le mot qui fait Pâques. Parce que ce jour-là, le peuple a été épargné. Cherchons la grâce de Dieu. Ce texte nous rappelle combien la grâce de Dieu est importante. Mais c'est pas quelque chose avec laquelle on doit jouer. C'est pas un Dieu. Dieu n'est pas un bon Dieu de qui on peut profiter comme on veut. Il y a un respect profond à tenir. Et si nous voulons rentrer dans les grâces de Dieu, nous devons aussi savoir que cette grâce, elle a coûté un prix. Et nous savons que ce prix, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est le sacrifice sanglant de Jésus à la croix. La grâce de Dieu est importante, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut rentrer au-dedans de nous-mêmes parce que nous sommes des pécheurs. Il faut s'examiner. Il faut passer au crible notre propre situation, notre vie. Et puis il faut chercher Dieu. Il faut le chercher avec humilité. Il faut rechercher la justice de Dieu, c'est-à-dire pratiquer les choses que Dieu demande, ce qui est droit au cœur de Dieu. Et alors, on vit dans la grâce de Dieu. La deuxième chose que ce texte nous renvoie aujourd'hui, c'est que la grâce de Dieu est disponible. Pas à n'importe quelle condition, mais elle est disponible. Troisième chose. L'imminence du jugement rappelle que ce jugement peut arriver. Donc, faut pas jouer avec Dieu. Dieu peut réellement réaliser ce qu'il dit. Même s'il nous aime, il peut nous châtier. Dieu n'est pas notre copain. Il ne faut pas jouer avec lui. Et l'imminence du jugement montre à quel point Dieu avertit. Mais Dieu est sérieux. Il peut le faire réellement. Alors, peut-être ce matin, remercions le Seigneur d'être ces chrétiens que nous sommes devenus grâce à Jésus. Parce qu'en Christ, nous avons trouvé la grâce. Parce qu'en Christ, nous avons échappé au jugement et surtout à la condamnation. Mais n'oublions pas que le Dieu de grâce et de bonté, c'est aussi le Dieu de justice, le Dieu saint. Voilà, je voulais juste introduire ce texte avec ces quelques réflexions. Et par la suite, nous allons poursuivre avec la suite et que le Seigneur nous aide à vivre ces choses, à ne pas regarder l'Ancien Testament comme simplement un truc qui existait pour les autres là-bas, hein, mais ça existe aussi pour nous, pour que nous puissions réfléchir aussi par rapport à notre propre situation. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Aide-nous à la vivre pleinement et totalement. Au nom de Jésus. Amen.